Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 18 février, tous unis contre l'antisémitisme, c'est l'appel à manifester lancé par le PS demain. Olivier Faure, ce matin sur RTL, y a invité Emmanuel Macron. Le chef de l'État ne s'y rendra pas. Décryptage à suivre. Coke en soute, le procès d'Air Cocaïne vient de s'ouvrir à Aix-en-Provence. Près de 700 kilos de drogue avaient été retrouvés dans un petit jet à Punta Cana. L'uniforme ne sera peut-être pas si uniforme. Les volontaires du service national universel auront droit à un trousseau, sans doute tricolore, et ce sont des lycéens qui vont participer à leur création. Dans RTL Midi aussi, le non-respect de l'orthographe est une faute et ça peut vous coûter un job. Les recruteurs écartent les CV qui écorchent le français. Nous serons avec un représentant de l'Association des directeurs de ressources humaines. Le diagnostic médical, un algorithme chinois est devenu aussi fort que des pédiatres. Une petite révolution. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Votre diagnostic, un bon anticyclone?
Oui, c'est ça, il résiste encore. Bon, même s'il y aura une petite faiblesse dans les prochaines heures, mais pour l'instant il est encore là, il protège la plupart des régions, la plupart, parce qu'il y a quand même un peu plus de nuages sur la Bretagne, sur le Cotentin, et ça donne déjà quelques pluies. Alors cet après-midi, cette perturbation restera dans les régions du Nord-Ouest, sur la Bretagne, le Val-de-Loire également sera concerné par une dégradation avant la soirée, tout comme la Normandie. Pour l'Île-de-France, ça sera en début de nuit, tout comme le Nord-Pas-de-Calais. Quelques nuages dans le Languedoc-Roussillon et ailleurs, toujours du soleil. Les températures fléchissent un peu par rapport à hier, mais ça reste doux, 11 à 15 degrés dans le Nord, 15 à 17 dans le Sud.
La question du jour sur RTL.fr, le gouvernement doit-il interdire les prochaines manifestations des Gilets jaunes? Vous dites oui à 51%, 45% de non, donc vous êtes assez divisé. On attend vos appels, vos arguments au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, Alain Finkielkraut, Ingrid Levavasseur, un fourgon de police caillassé, la haine. Nous attendons vos témoignages, la haine jamais atteinte peut-être ces dernières années en France. Le gouvernement, vous l'avez dit, doit-il interdire les prochaines manifestations? Et puis nous parlerons également du niveau d'orthographe. Vous a-t-il déjà empêché d'obtenir un poste? Est-ce que vous avez décidé de vous remettre à niveau? Appelez-nous au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer ce journal, on va parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Les TGV circulant dans le sud-est accusent plusieurs heures de retard à cause d'une panne d'alimentation électrique à Passilly dans l'Yonne. Du coup, les TGV sont devenus des TPV, des trains à petite vitesse. Agnès Bonfillon, vous êtes gare de Lyon à Paris. On fait le point avec vous, Agnès.
Nos équipes mettent tout en œuvre afin de limiter votre attente.
Face à ces retards de 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures, au départ comme à l'arrivée, il y a les philosophes.
Là, on va patienter tranquillement, comme les autres, voilà.
Vous avez le sourire quand même, hein ?
Bah, il faut, madame. C'est pas de leur faute, hein.
Cyril aussi garde le sourire. Il se rend souvent dans le sud pour travailler.
C'est toujours remboursé, il faut aller sur leur site et en mettre le numéro du billet, ils le remboursent.
Vous êtes renseigné, là ?
Non, mais on a l'habitude, on l'a souvent le retard.
Pour Fabienne, rien à voir, elle commence à perdre patience. Sa correspondance en bus après Marseille ne dépend pas de la SNCF. Elle demande donc de l'aide à un agent.
Là, je ne peux pas vous renseigner, il faudra que vous voyez ensuite sur place.
Oui, non, mais c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Donc je reste en rade, quoi. Grosso modo, je me débrouille pour me trouver un hôtel, pour payer de ma poche. La SNCF, ça commence à faire.
La SNCF qui espère une petite amélioration dans les minutes qui viennent. Les TGV vont pouvoir à nouveau circuler, mais sur une seule voie.
Eh ben c'est déjà une information, merci Agnès. Et puis on se souvient qu'il y a 3 semaines, à peine, une panne d'alimentation d'un système à haute tension avait paralysé le trafic à Paris-Montparnasse pendant des heures. L'Union nationale contre l'antisémitisme, l'appel à manifester pour demain dans toute la France et notamment à Paris, place de la République, avait été lancé en fin de semaine. Depuis, l'académicien Alain Finkielkraut a été victime d'insultes antisémites lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. L'homme qui l'a agressé verbalement a été identifié. Il est connu pour ses sympathies salafistes. Il va être convoqué par la justice. Et cette nouvelle agression donne un poids supplémentaire à cette mobilisation. Ce matin sur RTL, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a demandé à Emmanuel Macron d'y participer.
Je souhaite que le président de la République soit présent pour manifester, pour incarner la République et dire que, oui, la République condamne fermement, définitivement, de manière absolue, toute forme de haine, et notamment l'antisémitisme. Ce que Mitterrand avait fait à son époque, Emmanuel Macron doit le faire demain, et il doit être présent, il doit être celui qui dit « La République, ça ne peut pas être cela ».
Voilà, Olivier Faure avec Elisabeth Martichoux. Eh bien, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de s'y rendre. Quels sont ses arguments, Marie-Bénédicte Allaire ?
Eh bien, l'Élysée souligne que le président a toujours été très réactif contre l'antisémitisme et qu'il prononcera un discours mercredi au dîner annuel du CRIF. Alors, il est rarissime, il est vrai qu'un chef de l'État participe à une manifestation, deux précédents seulement, François Mitterrand en 90, après la profanation du cimetière de Carpentras, et François Hollande le 11 janvier 2015, après la tuerie de Charlie Hebdo.
Alors, finalement, qui va participer à cette manifestation?
Alors, une dizaine de membres du gouvernement sont annoncés, dont Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, Benjamin Griveaux, le porte-parole, Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, ou encore Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse. À ce stade, on ignore encore si le Premier ministre envisage d'y aller. Les leaders des 14 partis politiques qui appellent à manifester seront présents. Jean-Luc Mélenchon devrait y être. Pas Marine Le Pen, en revanche, au motif que le RN n'a pas été invité à signer l'appel commun. Mmh. Et puis, il y aura aussi les responsables syndicaux, dont Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT et Yves Verrier de Force Ouvrière.
Avec nous pour aller plus loin, le sociologue Michel Vivorca, bonjour.
Bonjour.
Des insultes contre le philosophe Alain Finkielkraut, Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement, violemment prise à partie, traitée de sale pute, un fourgon de police caillassé à Lyon, tout ça c'était ce week-end. C'est quoi ce climat ?
C'est un climat délétère, comme a dit Alain Juppé, c'est un climat de haine, c'est un climat aussi de décomposition du mouvement des Gilets jaunes. Il faut quand même en prendre acte. C'est un mouvement qui a eu beaucoup de sympathie au départ, mais qui est incapable d'empêcher qu'il se transforme, j'allais dire, en anti-mouvement, c'est-à-dire les violences, les propos antisémites, les agressions d'un type ou d'un autre, y compris en son propre sein.
Comment vous l'expliquez, vous nous dites juste, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de perdre du terrain qu'ils se radicalisent ?
On est dans une impasse. D'un côté, le pouvoir dit, on verra après, à la fin du grand débat, on verra après les mesures qui méritent d'être proposées. Et ce mouvement dit, on veut des réponses. Et donc, c'est comme s'il y avait deux mouvements très différents dans notre vie collective. D'un côté, le grand débat et d'un autre côté, la protestation des Gilets jaunes. Et donc, dans ce cas-là, ça affaiblit tout le monde. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le gouvernement non plus. Et en ce qui concerne les Gilets jaunes, ce qu'on observe, c'est une sorte de dissociation de ce qui a été un petit peu articulé à un moment, à savoir, marchait assez bien ensemble une pression dans les rues de Paris, y compris avec de la violence d'un côté, et la mobilisation sur les ronds-points. Autrement dit, le sens, il était sur les ronds-points, et la violence n'était pas complètement éloignée, l'action n'était pas complètement éloignée. Mais aujourd'hui, les eaux se séparent. La violence, la haine, l'antisémitisme, mais pas seulement, on s'en est pris aussi à des syndicats, à des locaux de syndicalistes, on s'en est pris à des permanences électorales,
Absolument. Mais justement, voilà. C'est quoi le problème ? C'est qu'il n'y a plus de relais aujourd'hui avec les partis politiques, avec les syndicats ?
Alors, je pense que vous dites quelque chose de très profondément juste et qui ne se refera que lentement. Nous avons besoin d'acteurs. Nous ne pouvons pas vivre avec cette verticalité qui met face à face uniquement le pouvoir et le peuple. S'il n'y a pas des partis, des syndicats, des associations, des mutuelles, des acteurs en tout genre pour débattre, discuter, chercher des réponses démocratiques aux problèmes du moment, alors oui, on va vers des catastrophes. Et donc, on a besoin que se reconstruise dans notre pays tout ce tissu d'acteurs qui permet justement la démocratie pluraliste.
Et comment vous expliquez cette libération de la parole antisémite et des actes aussi ? On n'est pas dans la même configuration que les années 30.
Pas du tout. Et il y a une chose qui est très différente des années 30, c'est que il n'y a pas de bruit de bottes en ce moment, heureusement. Il n'y a pas la guerre qui se profile. Il n'y a pas des gens qui, à la fois, développent des idées et des pratiques d'extrême droite et en même temps voudraient envahir tel ou tel pays. Non, on est dans un problème intérieur à notre société. Notre société sort difficilement d'un modèle qu'elle avait mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Tout se déglingue de tous les côtés et dans ce grand, comment dirais-je, dans cette grande déstructuration, nous n'arrivons pas à voir se reconstruire un nouveau modèle avec ses acteurs. Et donc on est au pire moment où on voit bien qu'un monde s'en va, on voit pas bien quel sera le monde de demain. Je suis frappé d'ailleurs de voir que personne ne propose des visions d'avenir fortes. Il n'y a pas d'utopie dans notre pays. En ce moment, il n'y a pas de vision pour le futur.
On est entre l'ancien monde et le nouveau monde. Merci beaucoup pour votre analyse, Michel Vivorca. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Dans un instant, le procès d'Air Cocaïne.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Ils sont pilotes de jet, douaniers. 9 accusés comparaissent devant la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. Le procès Air Cocaïne vient de s'ouvrir. Il y a 6 ans, souvenez-vous, 650 kilos de drogue dure avaient été saisis à Punta Cana dans des valises transportées par un petit avion privé. Chloé Gandolfo, vous êtes au palais de justice d'Aix-en-Provence pour un procès fleuve, sauf en cas de renvoi, et ça on le saura cet après-midi.
Oui, d'ailleurs, on n'est même pas sûr de savoir s'il va pouvoir découler ou non, comme l'a rappelé ce matin le président de la cour d'assises, car 2 accusés sont absents. Ce sont les 2 passagers du Falcon 50, Nicolas Pisapia et Alain Castagny. Ils doivent être jugés plus tard, lors d'un autre procès. Les avocats jugent pourtant leur présence indispensable afin d'éclairer la cour sur la façon dont ces vols ont été organisés. Car aujourd'hui, cette affaire, c'est un avion sans aile, a dit l'avocate d'un des accusés. Aujourd'hui, il y a donc 9 personnes sur le banc, dont les 2 pilotes français du Falcon 50, Bruno Odos qui est maintenant conducteur d'engin et Pascal Fauré qui est maintenant ambulancier. Pendant ces 7 longues semaines de procès, des dizaines de dossiers doivent être épluchés, des centaines de témoins doivent être entendus pour tenter de comprendre comment 700 kilos de cocaïne ont pu transiter jusqu'à Saint-Tropez à bord d'un jet privé. À ce stade, les 2 pilotes français clament toujours leur innocence et nient avoir été au courant du contenu des valises. Il faudra attendre plus d'un mois pour entendre Bruno Odos et Pascal Fauré. Leur interrogatoire doit avoir lieu les 20 et 21 mars prochains.
Chloé Gandolfo au palais de justice d'Aix-en-Provence. Nordal Lelandais est-il un tueur en série? Pourrait-il avoir commis d'autres meurtres que ceux de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer? RTL vous le révélait ce matin. Les gendarmes ont créé il y a un an la cellule Ariane, chargée de réexaminer un certain nombre d'affaires non résolues. Et sur 900 dossiers, eh bien une quarantaine vont être approfondies, Guillaume Chiez.
Ouais, pendant plus d'un an, les 7 gendarmes qui composent la cellule Ariane ont procédé à un tri de ces 900 dossiers, des homicides non résolus, des disparitions inquiétantes ou encore des cadavres non identifiés. Ils ont pris en compte 4 critères, la date de disparition, le lieu, le type de victime, mais aussi un critère plus subjectif, ce qu'on pourrait appeler le feeling des enquêteurs. En tout, une quarantaine de dossiers ont été sélectionnés pour être approfondis. Il faut maintenant voir s'ils peuvent ou non être reliés à Nordal Lelandais. Jean-Philippe Lecouf est sous-directeur de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale à la tête de la cellule Ariane.
Ils ont pu soit le croiser, soit pas du tout le croiser, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sur ces 40 cas, se dire, il y a une possibilité quand même importante d'essayer de trouver une réponse. Et il y a beaucoup de dossiers qui nous paraissent effectivement intéressants. Ils nous paraissent intéressants, pas nécessairement parce qu'ils nous rapprocheraient de Nordal Lelandais, certains nous en éloignent carrément, mais ils sont intéressants parce qu'on est susceptible d'essayer de trouver un début d'explication à ce qui s'est passé.
Et désormais, des enquêteurs locaux vont reprendre ces dossiers, les réétudier pour approfondir le travail déjà réalisé.
Des soupçons de viol sur un petit garçon de 5 ans à Ivry-sur-Seine. Ses parents ont porté plainte jeudi dernier. Ils pensent que ce crime aurait été commis à l'école. Un homme placé en garde à vue a été libéré sans être inquiété. Mais toute la communauté scolaire s'interroge. Charlotte Baris, vous êtes devant l'école maternelle Paul Langevin où une réunion de crise a eu lieu ce matin.
Oui, une réunion en présence du maire d'Ivry, des directeurs de l'établissement et de la directrice de l'académie du Val-de-Marne. Plus d'une heure de discussion, mais les parents sont toujours aussi inquiet.
Je suis encore sous le choc. On laisse nos enfants à des prédateurs. Qu'est-ce qui va se passer après? Pour nous les parents et pour les enfants surtout. Psychologiquement, c'est très difficile.
Comme de nombreux parents, Sabrina et Jérémy n'ont même pas déposé leurs enfants à l'école ce matin.
Tant qu'on n'aura pas de réponse, on ne va pas déposer notre enfant. On n'est pas sûr d'où vient le danger en fait.
L'école, ça doit être un lieu sûr. On doit être en confiance quand on dépose nos enfants à l'école. On ne doit pas être en panique toute la journée jusqu'à 4h30 au moment où on les récupère.
Et même s'il a été mis hors de cause et libéré ce week-end, les parents craignent de voir revenir l'employé mis en garde à vue jeudi soir. Le maire Philippe Bouissou tente de les rassurer.
Aujourd'hui, étant donné qu'il n'est plus mis en cause dans cette affaire, il pourrait revenir dans l'école, mais on ne souhaite pas que ce soit le cas.
Ce matin, la mère du petit garçon a été reçue à l'école. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les enfants, mais aussi pour le personnel encadrant.
Reportage Charlotte Baris à Ivry-sur-Seine. Ils ne seront pas forcément au garde à vous, mais ils porteront un uniforme. Les 2000 à 3000 volontaires du service national universel devront être habillés par la République au mois de juin. Mais quelle couleur choisir? Quel type de vêtements? De quoi sera constitué leur trousseau? On n'en est pas encore au défilé de mode, mais ce sont des lycéens en bac pro qui vont devoir faire des propositions, Marie Guerrier.
Oui, des lycéens en bac pro métier de la mode. Ils ont un mois pour concevoir une tenue avec un cahier des charges à respecter. Sur les polos, pulls, t-shirts, pantalons, chaussures, shorts et vestes coupe-vent qui composeront le trousseau, il faudra qu'apparaisse un insigne type cocarde ou écusson qui symbolise les valeurs de la République avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Les lycéens pourront aussi composer une courte devise faisant référence aux objectifs du service national universel, la cohésion, l'engagement par exemple. L'année devra figurer sur les vêtements pour donner le sentiment d'appartenance à une promotion comme dans les grandes écoles ou les universités. Donc cet écusson ou cet insigne pourront prendre n'importe quelle forme et le placement sur la tenue est libre en fonction de ce que les lycéens de la mode imagineront. Ils auront le choix du tissu, de la couleur de fond, des coupes. Le concours sera clos le 22 mars. Les propositions seront alors examinées par un jury composé du général Puga, ancien chef d'état-major, de la fondatrice de l'association Unicité à l'origine du service civique, d'une lycéenne de la ville d'Angers, élue au Conseil national de vie lycéenne, et puis du jeune créateur de mode Simon Porte-Jacquemus. Ils rendront leur verdict fin mars. Il faudra ensuite vite passer à la phase de fabrication. Ce sera du Made in France. L'uniforme doit être prêt pour l'expérimentation de juin.
Voilà, ce sera la collection 2019. La fin de la doctrine Mitterrand. Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, affirme qu'il n'y aurait aucune raison pour le gouvernement français de s'opposer à une éventuelle extradition d'anciens terroristes italiens réclamés par Rome à la justice. C'est aux magistrats d'en décider. Déclaration à lire dans le quotidien Le Monde. Dans un instant, une petite révolution médicale.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Quand l'intelligence artificielle est plus fiable que l'intelligence tout court, la très prestigieuse revue scientifique Nature évoque une étude dans laquelle un algorithme s'est montré aussi efficace que des pédiatre pour diagnostiquer des maladies chez les enfants, comme par exemple la grippe ou la varicelle. Il mélange des millions de données pour établir son diagnostic et seuls les pédiatres seniors se sont montrés au moins aussi performants. Alors les médecins y voient-ils une concurrence déloyale? Pour Jean-Paul Ortiz de la Confédération des syndicats de médecins français, c'est surtout une révolution.
L'intelligence artificielle ne me fait pas peur parce que je pense que ça ne remettra pas en cause le métier de médecin, ça va simplement le changer. L'intelligence artificielle va considérablement transformer tout ce qui est analyse d'images en radiologie, scanner, IRM, parce qu'on sait que l'œil humain, en matière d'analyse de nuances de gris, est moins puissant que l'intelligence artificielle. Dans des démarches de diagnostic, on voit que l'intelligence artificielle, et l'article récent concernant la pédiatrie le montre, l'intelligence artificielle va donner des propositions diagnostiques qui vont être souvent très pertinentes. Et elle ne remplacera pas le médecin. Pourquoi? Parce que demain, le médecin sera beaucoup plus dans l'écoute, parce que l'intelligence humaine permet d'intégrer des éléments autour de la psychologie, du roman familial, du contexte médico-social, du vécu de la maladie par son patient. Bref, des éléments qui sont justement de l'ordre de la relation humaine et de l'empathie.
C'est fascinant, Jean-Paul Ortiz avec Jacques Serret. Le manque d'orthographe nuit gravement à l'embauche. Si vous faites partie de ceux qui considèrent que l'orthographe est une option, ce sondage va vous faire changer d'avis. 52% des directeurs de ressources humaines assurent, dans une enquête Opinionway, que le niveau en expression écrite peut jouer dans la mise à l'écart d'une candidature. Certains affirment même qu'à CV égal, celui qui contient au moins 5 fautes a 3 fois plus de risques d'être écarté. Alors pour aller plus loin, nous sommes en studio avec Jean-Christophe Sibéras, ancien président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les principales fautes que vous voyez passer ?
Alors, il y en a pas mal, hein, mais je dirais la plus banale, je dois le dire, c'est les participes passés.
Ah, c'est ça.
Là, c'est vraiment
on transforme en infinitif.
C'est la catastrophe, ouais, c'est toujours en infinitif. Ça, c'est considérable. Pas seulement les candidats, même ceux qu'on a déjà recrutés, vous savez, même nos collaborateurs, c'est quand même assez banal.
Et du coup, quand vous voyez passer un CV sans faute, alors là, vous êtes surpris. C'est un peu l'inverse aujourd'hui ?
Peut-être pas quand même, parce que je trouve que pour les CV, quand même, globalement, je trouve que les gens...
Il faut attention.
Il faut quand même plus attention. C'est d'ailleurs le conseil qu'on peut donner aux éditeurs. Si vous faites un CV, en principe, vous ne le faites pas dans la minute. C'est quand même quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Donc, bien relire son CV. Éventuellement, le faire relire à d'autres, d'ailleurs, parce que des fois, il y a des erreurs qu'on fait soi-même ou qu'on ne voit pas. Mais un autre, il a un œil neuf, il peut voir des choses. Donc, c'est vraiment un conseil pratique. C'est important.
Qu'est-ce que les fautes d'orthographe révèlent sur les candidats ? Parce que c'est ça le fond du problème.
Alors, ça révèle, en général, sur le candidat, je dirais, alors soit qu'il ne sait pas faire orthographe, mais surtout, finalement, ce qu'on voit bien, c'est... C'est important, quoi, un CV. Enfin, quand un recrutement, c'est important. Donc, il y a un côté, ça donne un peu l'impression un peu désinvolte.
Un peu laissé aller.
Ouais, vous dites finalement, est-ce que je suis important pour lui ? Est-ce qu'il y a un petit côté... Enfin, ça peut... Peut-être un peu excessif, mais quand même, on se demande s'il n'y a pas un manque de respect.
Manque de respect.
Enfin, on va dire désinvolte et peut-être, dans certains cas, manque de respect.
Mm-hmm. Est-ce que vous, par exemple, vous faites le tri sur l'orthographe ou ça reste quand même quelque chose d'accessoire ?
Ça reste... Ça alerte, si vous voulez, mais ce n'est qu'une alerte. Hein, parce que quand vous recrutez quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui comptent. Et pas seulement l'orthographe, d'ailleurs, c'est heureux. Donc, en réalité, quand vous recrutez quelqu'un, c'est les compétences, c'est la rapidité d'esprit, c'est quand même l'adaptation par rapport aux besoins d'entreprise. Un candidat, c'est d'abord quelqu'un qui va répondre à un problème, c'est une solution, un candidat. Donc, si vous voulez, si la personne, par ailleurs, est une formidable solution par rapport à la question que vous avez, j'ai un poste vacant et vraiment, je veux vraiment le pourvoir rapidement, parce que tant que j'ai personne là-dessus, je suis vraiment bloqué, bon, bah, vous allez relativiser, évidemment, l'orthographe. Par contre, effectivement, si vous avez le choix, ce qui arrive quand même entre plusieurs candidats, là je rejoins l'enquête, un recrutement, c'est vous allez sélectionner des gens, mettre un numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Ça va être un facteur de tri.
Voilà. Donc si à compétence égale, vous voyez des problèmes d'orthographe, vous allez vous dire, finalement, je vais plutôt prendre celui qui est correct sur le plan orthographe.
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formations qui permettent à chacun d'entre nous d'avoir des certifications. Alors le plus connu, c'est le certificat Voltaire. Est-ce que vous conseillez, vous, à des postulants ou à certains de vos employés en interne, de se former ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ?
Écoutez, je vais vous dire, l'orthographe français, d'abord, il est quand même assez compliqué, il faut quand même le rappeler. C'est pas une langue très simple, le français. Tous ceux qui apprennent le français dans leur vie, il y en a quand même un certain nombre qui nous écoutent peut-être, le savent très très bien. Donc, si vous voulez, faut pas non plus...
Faut pas diaboliser.
Faut pas pousser non plus
mais
trop,
y a un minimum,
trop
quand
le truc.
Même.
Oui, et le minimum, c'est qu'attention, on est quand même dans une vie, dans le monde du travail, ou dans sa vie privée, où il est important de savoir... lire et comprendre ce que vous avez sous les yeux. Et là, le problème qu'on a aussi, et beaucoup plus important peut-être que l'orthographe, c'est la question de difficultés de l'illettrisme. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal sur l'aspect illettrisme, ça peut être dangereux d'ailleurs.
Donc c'est aussi un problème de compréhension aussi, l'orthographe. Merci beaucoup Jean-Christophe Sibéras d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Juste, génial, c'est le titre qui barre la une de l'équipe aujourd'hui avec cette photo de la magnifique reprise de volée d'Mbappé qui a permis au PSG de battre Saint-Etienne 1-0 hier soir. Mbappé a 20 ans, auteur de 19 buts en 18 matchs, c'est du jamais vu depuis 45 ans. Philippe Sanfourche, il est en train de devenir notre Messi, celui du foot français.
Exactement, il n'y a d'ailleurs que l'Argentin qui lui résiste cette saison au classement des meilleurs buteurs européens parmi les 5 grands championnats. 22 réalisations pour l'attaquant du Barça et déjà 19 pour le Français. Et quel but encore hier soir, le seul de la rencontre qui provoque la défaite stéphanoise. Et bien malgré cela, les supporters des Verts étaient sous le charme.
C'est exceptionnel, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient mis.
L'instinct du buteur, ça. Son but exceptionnel, on peut rien dire.
Le but d'Mbappé, à mon avis, est imparable. Sacré joueur.
Extraordinaire. Les reprises comme ça, il n'y a que lui qui peut les mettre. Moi j'aime le foot, faut reconnaître.
Il est dans une position assez incroyable et franchement dans cette position-là, c'est impressionnant. Il n'y a pas que ses courses, dans la frappe c'est superbe.
Admiration et sympathie suscitées partout en Europe, de Manchester à Saint-Etienne. À 20 ans seulement, Mbappé devance au même âge Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en termes statistiques, que ce soit en club ou en sélection. Et au-delà de son talent, ce sont surtout sa mentalité et sa maturité qui font dire à tous ses entraîneurs qu'il est celui appelé à détrôner les deux monstres.
Merci Philippe Sanfourche, et je me tourne vers vous Pascal Pro. Si j'allume pas mon micro, ça va aller moins bien. Vous êtes impressionné vous aussi par Mbappé, on peut en parler.
Mbappé est le plus grand joueur français de tous les temps à son âge. C'est-à-dire que Michel Platini a éclos à 21 ans, lui c'est à 18 ans, hein, oui. 18, 19 ans. Et Raymond Coppa, Jean-Pierre Papin, tous les joueurs qui ont eu des ballons d'or, donc c'est un bon critère, hein. Ces joueurs-là n'étaient pas au niveau d'Mbappé à cet âge-là. Et ça va peut-être devenir le plus grand joueur du monde en activité, donc réjouissons-nous. Nous en parlerons, pourquoi pas tout à l'heure, mais on parlera certainement de la haine, cette haine palpable, durable, insoluble. Vous avez parlé d'Alain Finkielkraut, d'Ingrid Levavasseur et du fourgon de la police caillassée. On parlera évidemment de l'orthographe. J'ai retenu ce que disait M. Sibéras. Le français est une langue compliquée. C'est pas le souci quand même dans des CV. Ouais, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ce qu'on reproche. Aujourd'hui, on est quand même déconcerté devant des fautes de CM2, disons-le. Et déjà en plus, qu'ils soient à Bac plus 5, c'est des fautes de CM2. Pourquoi ça ne marche plus? Et est-ce que c'est invalidant? On en parlera tout à l'heure.
Voilà, nous on est à l'oral, comme ça on s'en fiche.
Exactement.
La météo, Louis Baudin. Vous facile, avez fini quand même par... Bah oui, c'est facile. Vous avez fini par trouver quelques nuages.
Oui, c'est vrai, quelques nuages dans le nord-ouest, exactement. C'est vrai que par là arrive une perturbation qui donnera cet après-midi des nuages et de la pluie sur la Bretagne, sur la Normandie. Puis en fin de journée, cette perturbation arrivera sur le Val-de-Loire, l'Île-de-France, ça sera en début de nuit, ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Les pluies, ça sera pour la nuit. Alors dans les autres régions, bah encore une belle après-midi avec un temps sec et ensoleillé, sauf dans Languedoc-Roussillon. Nous aurons ce qu'on appelle quelques entrées maritimes poussées par le vent marin. Le tout avec des températures qui baissent un peu, mais qui restent quand même très douces pour la période. 11 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, et 15 à 17 degrés dans le sud.
Bon, et demain, un petit bémol.
Voilà, un petit bémol, mais c'est temporaire. Hein, la perturbation dont je vous parlais dans le nord-ouest, cette nuit, elle va traverser le nord et le nord-ouest, ce qui veut dire que demain matin, on ne l'aura pas vue. On sera juste après, à Paris par exemple, et puis devrait passer plutôt en cours de nuit. Donc demain matin, elle sera entre le nord de l'Aquitaine et la Lorraine, avec des nuages, un petit peu de pluie quand même. Encore du soleil du côté des Alpes. Et puis en cours d'après-midi, les éclaircies reviendront au nord de la Loire avec déjà un temps plus sec. Encore quelques averses après-midi de l'Aquitaine au nord-est et puis toujours du soleil des Alpes à la Méditerranée. Températures, allez, elles baisseront un petit peu, 10 à 13 degrés quand même dans la moitié nord, 13 à 16 dans le sud, mais ça remontera très vite après.
Formidable, merci Louis.
Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.
Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard. RTL. Il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. Sorti mercredi pour le film de François Ozon, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris autorise la diffusion sur les grands écrans de Grâce à Dieu, un film inspiré de faits réels et qui raconte la naissance de l'association de victimes La Parole Libérée, fondée à Lyon par d'anciens scouts abusés par le père Prénat. L'un des avocats de ce dernier avait assigné François Ozon en référé. Un lundi de galère sur la ligne TGV entre Paris et Lyon, une panne électrique dans Lyon oblige les trains à grande vitesse à emprunter une ligne moins rapide avec des retards dépassant parfois les 3 heures. Victor et sa compagne viennent enfin d'arriver, gare de Lyon depuis Marseille, avec 3h50 de retard.
Eh ben, au final, on arrive super en retard, on a dû s'arranger, on va prendre un taxi là pour rentrer rapidement. Quoi. On revenait pour le boulot tous les deux et on était censé arriver avant 9h. Donc là, c'est pas possible. Enfin, on nous a dit relativement tard ce qui se passait et puis on a dû un coup aller en avancer, un coup en reculer, on savait pas trop. Au début c'était une heure, puis ça s'est transformé en deux heures et à la fin, de temps en temps, ils nous disaient qu'il y avait un peu plus de retard, mais clairement c'est un peu abusé quoi. Surtout que nous on est abonnés, enfin voilà, on n'a pas trop de compensation, donc on avait le chien et tout, donc là au bout d'un moment, c'est un peu marre quoi.
Victor, au micro RTL d'Agnès Bonfillon. Les entreprises ont joué le jeu de la prime Macron au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État avait lancé un appel aux groupes privés pour un coup de pouce au pouvoir d'achat. 74 grands groupes ont accepté le dispositif avec une prime de 650 euros en moyenne, selon un sondage de la NDRH qui représente une partie des directions de ressources humaines en France. Les patrons de PME se sont montrés plus généreux avec un montant de 687 euros versés à leur emploi. François Asselin, à la tête de la CPME, explique ce succès.
Lorsque dans une petite entreprise, on peut verser une prime directe, nette de charges sociales et nette d'impôts, c'est un levier de motivation qui est extrêmement apprécié par les salariés, mais aussi par les chefs d'entreprise. Donc ça fonctionne. Deuxième réflexion, c'est que bien souvent, dans les entreprises plus importantes, il y a déjà des dispositifs d'intéressement beaucoup plus déployés que dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, par exemple. Ce qui fait que lorsque vous versez une prime et que vous avez déjà un dispositif de motivation de vos salariés via l'intéressement, eh bien effectivement, il y a un moment, il faut, entre guillemets, savoir raison garder entre ces primes exceptionnelles et ce qui existe déjà comme levier de motivation au niveau pécuniaire.
François Asselin avec Christophe Ponzio pour RTL. Pas de présence d'Emmanuel Macron demain soir dans une des manifestations contre l'antisémitisme. Des rassemblements à l'appel de 14 partis politiques dans toute la France et à Paris, place de la République à 19h. Mais le président prononcera un discours sur le climat actuel lors du traditionnel dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives, après-demain. Agnès Buzyn, au centre hospitalier de Bernay, dans l'Eure, ce matin, Emmanuel Macron avait défendu la maternité il y a un mois pendant un échange du Grand Débat National. Une maternité désormais transformée en centre de périnatalité. La promesse est tenue pour la ministre de la Santé.
C'est pas une fermeture. Il n'y aura plus l'acte d'accouchement. Ça dure 2 jours. Il y aura tout le suivi de grossesse. Et un suivi de grossesse qui sera de très grande qualité. Nous l'avons vu à Pont-Audemer ce matin, avec des équipes qui sont rayonnantes dans leur qualité de vie, avec des parturientes, des femmes enceintes qui ont accouché et qui étaient enceintes, qui se sentent rassurées, suivies, accompagnées. Il n'y a plus la capacité aujourd'hui à se projeter dans l'avenir, dans une maternité qui repose sur un ou deux professionnels. Aujourd'hui, cette maternité, elle fonctionne avec un pédiatre, un gynécologue obstétricien temps plein, et nous savons que ça ne suffit pas, ça n'est pas suffisamment robuste pour l'avenir de cette maternité, et donc nous préparons l'avenir.
Agnès Buzyn avec Julien Caillard pour RTL. La fin annoncée du califat de l'État islamique retranché dans un ultime réduit à l'est de la Syrie. Les djihadistes n'occupent désormais qu'un demi-kilomètre carré. Aujourd'hui, l'Alliance arabo-kurde soutenue par Washington, les sommes de se rendre. Pour Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, le danger des djihadistes n'est pas pour autant écarté.
Alors, ils sont plus dangereux pour nous autres à l'extérieur de la Syrie et de l'Irak lorsqu'ils sont dispersés, parce que bien évidemment, ils vont devoir démontrer à leurs troupes et d'ailleurs aux musulmans du monde entier, en tout cas c'est ce qu'ils vont tenter de faire, qu'ils sont toujours très actifs, qu'Allah est toujours avec eux et par conséquent ils risquent de frapper davantage sur le plan en quelque sorte terroriste. Voilà la forme qu'ils vont de nouveau chercher à prendre.
Frédéric Ancel, auteur de Mon dictionnaire géopolitique au PUF, ce matin sur RTL avec Yves Calvi. C'est l'heure de notre point quotidien à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Les boursiers lèvent un peu le pied ce lundi. Hein.
Bah oui, c'est normal. Hein. Après un gain de 4% la semaine dernière, la bourse reprend un peu son souffle. Alors là, on est à peu près stable, 5158 points. Les investisseurs restent toutefois optimistes à propos de l'issue des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les pourparlers vont reprendre à Washington cette semaine. La semaine dernière, c'était à Pékin, entre les hauts dignitaires des deux grandes puissances. Les boursiers espèrent bien sûr des avancées avant la date butoir de fin des négociations au 1er mars. Cette date butoir sera peut-être même repoussée. Il y a encore de nombreux domaines à discuter. L'activité sur le marché reste toutefois un peu limitée en l'absence du grand frère américain. Et oui, Wall Street est fermée aujourd'hui pour le President's Day. La vedette du jour à la bourse est TF1. Elle bondit de 10%. Plusieurs cabinets d'analyse recommandent la valeur depuis la publication des résultats la semaine dernière, jugée très solide.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause et dans un instant, on vous attend au 3210. Pour les auditeurs ont la parole, Pascal Praud est fidèle au poste.